Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous en direct jusqu'à 20h50 avec toute l'équipe. Bonsoir à tous les saints. Émilie, le choix de l'actu du jour.
Je vais vous parler d'une maladie qui ne s'est virée qu'à Lille. Ou comment le Covid a débridé l'imagination.
Mathieu dans le 5 sur 5 ce soir.
Un géant chinois qui vacille et c'est l'économie mondiale qui retient son souffle. Oh,
Mohamed, la story du jour.
Comment les Australiens vivent la crise des sous-marins avec la France, je vous l'explique ce soir.
Et Pierre, dans votre œil.
Eh bien, je vous ferai entendre une musique qui sera peut-être un jour remboursée par la Sécurité sociale.
Ah. Autant de sujets qu'on soumet ce soir à nos invités. Michel Simès, André Dussolier, l'humoriste Thomas VDB. Autour du dîner préparé ce soir par Laetitia Viss, chef du restaurant La Femme du Boucher à Marseille. Bonsoir, chère Laetitia.
Bonsoir, merci de m'accueillir.
Marseillaise d'adoption depuis 3 ans seulement, et pas La Femme du Boucher, mais en tout cas bien la chef de ce restaurant.
Exactement.
Avec au menu ce soir.
J'ai préparé une terrine de chevreaux du Rove, qui est une belle race emblématique de ma région.
Merci beaucoup, chère Laetitia.
Merci à
tout à l'heure. Mais d'abord, Patrick, les prix du carburant à la pompe, du gaz, de l'électricité ne cessent de grimper en France et dans toute l'Europe. Les raisons de cette flambée ?
Alors, flambée qui devrait, en France, alimenter le débat sur le pouvoir d'achat et devenir un sujet du débat présidentiel. Songez que le litre de sans-plomb E10 s'affiche en moyenne à 1,56€, c'est-à-dire 2 centimes de plus que son record d'octobre 2018, quand les gilets jaunes ont commencé à occuper les ronds-points. Le gazole est un petit peu moins cher. Alors, les raisons : reprise économique, pénurie de gaz et pénurie de vent. C'est donc d'abord la demande mondiale post-Covid qui fait monter les cours. Le pétrole à $73 le baril de Brent est au plus haut depuis 3 ans. Même chose pour le gaz qui bat des records pour 2 raisons supplémentaires. Les centrales à gaz qui avaient été mises en sommeil durant la crise du Covid prennent du temps à redémarrer quand les stocks européens sont au plus bas. Et puis la Russie, premier fournisseur de gaz en Europe, a réduit ses livraisons. Une pression politique manifestement dans le but d'accélérer la mise en service vers l'Allemagne du gazoduc controversé Nord Stream 2. En attendant, Moscou préfère servir la Chine qui achète son gaz à très bon prix.
Et l'électricité, vous avez parlé d'une pénurie de vent.
Oui, c'est le drame de la Grande-Bretagne qui a beaucoup misé sur l'éolien. Les Anglais ont installé un parc de 11 000 éoliennes. Boris Johnson a dit qu'il voulait faire de son pays l'Arabie Saoudite du vent. Le problème, c'est que s'il y a encore du pétrole au fond des puits saoudiens, il n'y a pas toujours du vent pour faire tourner les éoliennes. Or, le pays vient de connaître son été le moins venteux depuis 1961. Calme plat sur la mer du Nord, même pas de quoi décoiffer un Premier ministre. Les éoliennes qui fournissent en moyenne un quart du courant britannique n'en produisent plus que 7%. Des centrales à charbon ont dû être rallumées à grands frais. Et comble de malchance, un incendie vient de détruire l'une des connexions qui permettait aux Anglais d'importer du courant français. Tout cela propulsait les prix de l'électricité à des niveaux records et provoquait déjà la faillite de 5 distributeurs d'énergie. Cela dit, la tendance est à la hausse aussi sur tout le continent à cause du renchérissement du gaz et du charbon, le charbon thermique qui sert à fabriquer l'électricité. La France, dont le kilowattheure est l'un des moins chers d'Europe grâce au nucléaire, devrait en partie, mais en partie seulement, être épargnée par le mouvement.
Et sur le plan de l'environnement, quelles conséquences ?
Désastreuses dans tous les pays où les centrales à gaz ou à charbon, surtout, tournent à toute vapeur. Cette histoire de hausse du gaz vient nous rappeler à quel point l'Europe va rester pour longtemps dépendante des énergies fossiles, malgré la montée en puissance des renouvelables. L'Allemagne, qui reste le plus gros pollueur d'Europe avec près d'un quart des émissions de CO2 de toute l'Union et qui doit fermer sa dernière centrale nucléaire d'ici à la fin de l'an prochain, continue d'afficher l'un de ses pires bilans carbone. À l'heure où nous parlons, on a vérifié les chiffres tout à l'heure, un tiers de l'électricité allemande est produite par du charbon, l'éolien ne tourne qu'à 10% de sa capacité, il n'y a pas beaucoup de vent, et le kilowattheure allemand émet 342 grammes de CO2, c'est l'un des plus gros points noirs du bilan Merkel, qui a sacrifié le nucléaire et le climat au profit du gaz russe. En France, à la même heure, 1% de charbon, 72% de nucléaire, 51 grammes de CO2, c'est-à-dire 7 fois moins.
Bonsoir Éric Heyer.
Bonsoir.
Économiste, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, l'Observatoire français des conjectures économiques et membre du Haut Conseil des finances publiques. D'après les calculs de l'association de consommateurs UFC Que Choisir, la facture moyenne des ménages qui utilisent l'électricité pour se chauffer devrait augmenter de 150 euros 2022. C'est la mauvaise surprise de cet automne pour de nombreux ménages français.
Alors c'est là, oui, c'est la surprise. Il y a ce supplément qui va vraiment impacter la confiance, parce que globalement, jusqu'à présent, la vision macroéconomique était plutôt belle, parce que si je la fais très simple, vous voyez, la crise a coûté 180 milliards. À la France, mais c'est les finances publiques qui l'ont quasiment encaissé, 165 milliards. C'est les
donc il n'y a pas eu d'impact sur le pouvoir d'achat
très
des
peu,
Français.
Très peu, parce que même ce que nous dit l'INSEE, c'est que les Français ont gagné 40 milliards de plus qu'en 2019. Donc en fait, tout va bien. Et puisqu'on les a empêchés d'aller consommer, ces ménages-là, ben, il y a une épargne gigantesque, 150 milliards d'euros d'épargne supplémentaire. Donc on dit, ben, en fait, tout va bien. Et ça, c'est la macroéconomie. Et donc si on regarde maintenant dans la micro, alors c'est plus difficile de regarder les agents, mais le Conseil d'analyse économique nous aide et dit, attention, ces 150 milliards d'épargne sont concentrés sur les 20% les plus riches. Et attention, en bas de la distribution, ben, les revenus ont plutôt baissé et la consommation incompressible, en fait, a été toujours très élevé. C'est qu'en fait, quand on dit qu'on a empêché les Français d'aller consommer, oui, c'est un peu le superflu qui a été empêché. Mais la consommation incompressible, elle était là. Et donc, du coup, ces ménages-là se sentent déjà dévalorisés. Ils ont perdu en pouvoir d'achat, alors que ça va bien en macroéconomie. Et si, en plus, vous augmentez le prix des matières qui joue
indispensable,
indispensable comme l'électricité, l'alimentaire, là d'un coup cette facture incompressible devient insupportable et là il y a des inégalités qui deviennent très fortes et donc on est dans un monde où finalement la macro, ça va bien, mais avec des personnes qui vont très bien mais des personnes qui vont
et quel rôle vont devoir jouer les pouvoirs publics justement pour amortir ce choc
C'est ça, c'est-à-dire que globalement, on a fait le quoi qu'il en coûte, c'était on aide tout le monde en fait, parce qu'on n'a pas le temps de faire le tri, il fallait aller très vite. D'accord. Maintenant, il y a eu quelques trous dans la raquette, donc on pense aux jeunes, on pense aux ménages modestes, on pense à ceux qui étaient dans des CDD, qui n'ont pas eu d'activité partielle, et donc il faut faire du sur-mesure, mais c'est beaucoup plus compliqué de faire du sur-mesure, vous voyez, et puis parce que la dette a augmenté.
Mais baisser les taxes, par exemple, est-ce que c'est une façon d'aider?
Alors, ça pourrait. Vous voyez, c'est ce que fait l'Espagne. L'Espagne décide, puisqu'il y a une augmentation, on baisse les taxes. Mais vous voyez, pour un économiste, ce n'est pas la bonne idée. Pourquoi ? Parce que vous voyez, globalement, il faut un signal prix pour dire vous voyez, quand vous consommez de l'essence, ça, c'est mauvais pour l'environnement. Donc, il vaut mieux, dans ces cas-là, que le prix augmente, qu'on se rende compte que quand on va à la pompe, ça,
qu'on paye cher parce que ça a un impact sur l'environnement.
Parce que ça a un impact. Et bien sûr, puisque c'est inégalitaire, puisque globalement, les ménages modestes ont été déplacés loin des centres-villes, donc ils sont obligés de venir, on les compense par un chèque. Et là, ce que fait le gouvernement,
énergie.
Le chèque énergie, c'est bien plus intelligent, parce que globalement...
100 euros de chèque énergie pour 6 millions de foyers français.
Peut-être que ce n'est pas suffisant, ça c'est une idée, mais il vaut mieux essayer de compenser les ménages modestes et leur dire, mais tu vois, tu vas avoir ce chèque, mais globalement, il faut que tu te rendes compte que quand même, ça a un prix, quand même, la transition écologique, plutôt de dire, non, il n'y a pas de signal prix, continue.
Et que ce soit indolore, continue à polluer.
Mais vous avez souligné le paradoxe, d'un point de vue environnemental, pour nos objectifs climatiques, tout le monde devrait se... Enfin, tout le monde.
Oui.
Vous me comprenez, tout le monde devrait se réjouir de la hausse des prix de l'énergie. C'est la logique aussi de la taxe carbone, d'ailleurs, et qui continue d'augmenter au niveau de l'Union européenne. Or, dans le débat public d'aujourd'hui, personne ne se réjouit de la hausse des prix. Alors, ces prix-là.
Oui, parce que c'est vu comme quelque chose de punitif. C'est-à-dire que globalement, les prix augmentent et donc et les recettes de l'État vont augmenter et ça sert à financer soit d'autres mesures, soit le déficit. Alors que non, normalement, les taxes carbone, c'est je prends les recettes de cette taxe carbone et je compense les personnes qui n'ont pas le choix, d'accord, pour que ça ne devienne pas du punitif, mais de l'incitatif. C'est-à-dire que on te compense, mais si tu agis bien, tu gardes cet argent-là et donc tu gagnes en pouvoir d'achat, mais tu te seras bien comporté.
Et il faut inciter les industriels à investir dans l'énergie durable.
Mais oui, mais si le prix augmente des énergies fossiles, ça va être bien plus rentable d'aller dans les éoliennes. Si, par contre, vous baissez continuellement le prix, alors il n'y aura aucun intérêt pour l'industriel de se dire non, mais produire vert, ça coûte beaucoup plus cher, comme consommer vert, ça coûte beaucoup plus cher, tant pis, je vais aller là où c'est le moins cher.
Vous l'avez rappelé, le quoi qu'il en coûte a permis de maintenir une partie du pouvoir d'achat des Français. Bruno Le Maire avait pourtant annoncé que c'était fini. Or, depuis une quinzaine de jours, Emmanuel Macron ne cesse d'ouvrir les cordons de la bourse.
Je suis prêt à ce que dans un premier temps, on puisse avoir ce financement d'un milliard d'euros, dont 250 millions en subventions.
D'augmenter en plus de 350 millions d'euros pour tout ce qui concerne la dynamisation de vos centres-villes.
Le ministère de l'Intérieur verra ainsi son budget augmenter
de près de 1,5 milliard d'euros.
2 milliards d'euros supplémentaires pour MaPrimeRénov'.
600 millions d'euros par an en moyenne pour permettre de financer le système.
Une aide exceptionnelle de 100 euros sera versée à la fin de l'année sous la forme d'une revalorisation de ce chèque énergie.
De quoi faire titrer ce matin à Libération au Figaro, c'est Noël en été. Macron assèche un peu plus les caisses de l'État des annonces de dépenses qui effraient notamment les Républicains.
Emmanuel Macron fait campagne avec le chéquier de la France. Mais le quoi qu'il en coûte, pour les Français, il est fini. Le quoi qu'il en coûte, pour la réélection d'Emmanuel Macron, il ne fait que commencer.
Nous pensons qu'il y a urgence pour le pays à ce que Emmanuel Macron, qui a été un président pour presque rien et qui est en train de cramer la caisse, arrête son mandat en 2022.
Emmanuel Macron est-il en train de cramer la caisse ?
Non, mais c'est très compliqué comme question. Aujourd'hui, il y a quand même une donnée supplémentaire, c'est que les taux d'intérêt sur la dette publique sont négatifs. C'est-à-dire que globalement, ça ne nous coûte rien. Donc à court terme, on peut dire... On a des marges de manœuvre, mais il faut bien utiliser ces marges de manœuvre. Donc, dans toutes ces dépenses-là, il y a sans doute des dépenses qui sont des dépenses d'investissement. Et là, ben, c'est peut-être rentable aujourd'hui de les faire parce que demain, on aura plus d'activité, on aura des salariés plus productifs, on aura une meilleure santé, une meilleure éducation. Donc, ça se financera tout seul. Et peut-être qu'il y a des dépenses là qui sont complètement inutiles. Et là, on crame la caisse. Donc, c'est compliqué à répondre. Aujourd'hui, la seule différence par rapport au mandat précédent, c'est que les taux d'intérêt étant négatifs, on a la possibilité de le faire, même si c'est du gaspillage. À court terme, ça ne se verra pas. Ça se verra dans 10 ans, mais pas tout de suite. Donc, espérons que ça soit des bonnes dépenses d'investissement qui nous permettra...
Qui touchent les bonnes cibles.
Qui touchent les bonnes cibles. Et auquel cas... Ben alors, c'est dans tout ce qui a été dit, je ne pourrais pas dire, mais vous voyez, typiquement, vous pensez à un plan d'investissement pour la transition écologique, la prime rénov', typiquement, c'était un des exemples. Si ça permet de baisser la facture des personnes qui sont à l'intérieur, puisqu'il n'y aura plus de passoires thermiques. Et donc, ça baisse la facture des gens qui sont plutôt modestes à l'intérieur. Donc ça, c'est bien. Ça fait travailler des salariés en France, puisque...
Des savoir-faire, des artisans...
savoir-faire, etc. Et ça permet d'éviter de polluer la planète, et donc de faire réchauffer. Est-ce que ce n'est pas un très bon investissement ? Donc aujourd'hui, les taux d'intérêt étant faibles, on peut se le permettre. Alors certes, les rendements vont être très longs avant de porter ses fruits, mais ça, on veut dire, allons-y. Si c'est pour, par contre, gaspiller l'argent et donner l'argent à des entreprises qui vont faire faillite demain ou à des ménages qui vont consommer des produits étrangers, là, on peut se poser la question.
Quelle est la première énergie de chauffage des Français ? Le gaz.
Le gaz.
Le gaz, voilà. Donc c'est... On en revient à la problématique de départ. Effectivement, il est important et urgent d'améliorer l'isolation des logements des Français.
Et on entendait les critiques des Républicains qui, eux-mêmes, ouvrent un chéquier virtuel, puisque c'est la foire aux promesses
et
qui sont sonnantes et trébuchantes.
Oui, en campagne, on annonce les bonnes nouvelles. D'accord, on annonce toutes les dépenses supplémentaires ou les baisses d'impôts. Et ensuite, une fois qu'on arrive au gouvernement, quand on est élu, ben, on se fait rattraper par la réalité. Et donc, il va falloir dire comment je le finance. Mais aujourd'hui, encore une fois, la différence, c'est qu'on peut, à court terme, le financer par du déficit. Avant, ce n'était pas possible. Mais là, les taux d'intérêt nous le permettent. Donc, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas avoir du déficit et des mauvais investissements.
Mais le déficit, il est tenable longtemps ?
Encore une fois, il est tenable si ce déficit est lié à des projets d'investissement qui vont porter ses fruits dans 5-10 ans. Mmh. Les taux d'intérêt nous permettent. Si par contre, on se rend compte que c'est fait pour du fonctionnement et de la consommation de tous les jours, alors on va se faire
attraper par la patrie. Le Haut Conseil des Finances Publiques, il valide tout ça ?
Alors le Haut Conseil se prononcera demain, donc moi je parle au nom de l'OFCE, et vous verrez demain l'avis du Haut Conseil sur le budget.
Il ne peut pas se frotter les mains d'une telle situation, qui forcément tire 2-3 sonnettes d'alarme.
Dans ce tourbillon d'annonces, les réductions fiscales qui avaient été promises n'ont pas été remises en cause. Sur 5 ans, 52 milliards ont été laissés aux Français avec la suppression de la taxe d'habitation et la baisse du barème de l'impôt sur le revenu. L'année prochaine, ce sont les 20% de Français aisés qui vont voir diminuer le deuxième tiers de leur taxe d'habitation. Quand je dis aisés, on va dire que ce sont les catégories moyennes supérieures. Elles attendent encore qu'on leur fasse quelques cadeaux parce que leur pouvoir d'achat va compter dans l'économie.
Oui, mais on voit bien qu'ils ont été obligés de le faire. C'est-à-dire que dans le programme du président présidentiel d'Emmanuel Macron, il n'y avait pas ces 20%. Ouais. C'était vraiment ciblé sur les classes qui étaient un peu plus basses. Mais d'un point de vue constitutionnel, on ne pouvait pas le faire. Donc on l'a fait pour tout le monde. Mais ça, typiquement, ce n'est peut-être pas un très bon investissement. Typiquement, baisser sa taxe d'habitation, on sait très bien que ce n'est pas le déficit qui doit combler ce manque à gagner. Il va falloir qu'on trouve des nouvelles recettes. Et c'est peut-être ça qui était dans le programme d'Emmanuel Macron, pas extrêmement bien financé. Et aujourd'hui, ben, les 20%, une aide pour les 20% les plus aisés, ce n'est peut-être pas le moment de
ça
faire.
Ça a été justifié aussi par l'injustice de cette taxe et cette assiette complètement
Mais on aurait pu la rénover.
Déformée. Oui, alors c'est un vaste chantier. C'est un peu plus long. Gros chantier.
Vous attendez quoi des candidats à l'élection présidentielle? De l'imagination, du réalisme économique.
Des projets. Vous voyez, encore une fois, ça fait peut-être trois fois que je le dis, les taux d'intérêt étant faibles aujourd'hui, on peut se permettre
d'avoir
des projets d'investissement. Mais des projets d'investissement, c'est-à-dire changer la société, mais en mieux. C'est-à-dire, ce n'est pas essayer de redonner du pouvoir d'achat pour donner du pouvoir d'achat. Mais si on se dit qu'aujourd'hui, le problème, c'est l'éducation dans la petite enfance, quand on sait qu'on sait dire à la fin du CP, à 80%, qui va décrocher à 16 ans, vous voyez, ça, c'est une réforme structurelle. C'est-à-dire se dire, si on arrive à investir dans cette jeunesse, dans 10 ans, ils vont être productifs, ils vont être sur le marché du travail, ils ne vont pas décrocher. OK, pendant 10 ans, ça nous coûte de l'argent. Mais les taux d'intérêt nous le permettent. Et lorsque les taux d'intérêt vont augmenter dans 10 ans, ben, ces gens deviendront productifs, voudront bien payer des impôts parce qu'on les a aidés. Vous voyez, ça, c'est un projet qui permet d'avoir de la cohésion sociale et on peut se le permettre. Quand les taux d'intérêt étaient à 4, on ne pouvait pas se permettre, ça coûtait trop cher de le faire. Là, maintenant, on ne peut pas dire que financièrement, on ne peut pas le faire.
Une autre voie est donc possible, ça tombe bien, c'est le titre de votre dernier ouvrage, paru en septembre 2020 chez Flammarion, coécrit avec Dominique Méda.
Exact, c'est bien ça. Et Pascal Jokiek.
Un juriste
et une sociologue, et un économiste.
Merci beaucoup, vous restez avec nous, on continue à évoquer l'actualité, c'est la story de Bouabed Bouabsi. Salut Mohamed.
Salut Babette, salut à toutes et à tous.
J'ai une question simple ce soir. Comment est-ce qu'on a réagi en Australie à la crise diplomatique provoquée par cette histoire de sous-marins ?
En Australie, cette semaine, on ne parle que de l'affaire des sous-marins français, The French Submarine Deal.
French ambassadors to Australia and the United States are being recalled to Paris as tensions flare over the submarine deal formed as part of the AUKUS pact.
Well, in breaking news this morning, France has recalled its ambassadors to Australia and the US. It's in the wake of a new nuclear defence deal signed between Australia, America and Britain.
French fury against the federal government shows no sign of easing, with the country's foreign minister lashing out at Australian lies and duplicity.
L'annulation de la commande de 12 sous-marins passés auprès de Naval Group, qualifié de contrat du siècle pour près de 56 milliards d'euros, suscite la polémique. Les médias australiens considèrent d'ores et déjà cette affaire comme l'information de l'année. Et quand l'ambassadeur français Jean-Pierre Thébault quitte son ambassade à Canberra, il est suivi par tous les médias australiens.
A parting shot from an angry envoy.
When you betray somebody, don't expect to be thanked for that.
Called home in a diplomatic slap at Australia sinking a $90 billion French submarine deal.
Bon, on l'a vu partout avec ses valises, Jean-Pierre Thébault, l'ambassadeur, ça a fait la une en Australie. La ministre des Affaires étrangères australienne Maryse Payne a dit regretter le rappel de notre ambassadeur et comprendre la déception française. Les médias australiens, eux aussi, entendent la colère de la France.
France is making a very strong point here, so this is effectively a diplomatic dummy spit. Now, when this announcement was made, Scott Morrison said it wasn't a change of mind, but a change of needs. But Charles, it has certainly upset a friend.
The government has shown Australia to be an unreliable partner to an ally and power bloc that has wanted to step up beside us in the Indo-Pacific.
Mais Sky News Australia, l'équivalent australien américain de Fox News, est remonté contre la France. Toutes les comparaisons sont bonnes pour critiquer notre pays, même revenir sur la mort de 11 000 soldats australiens pendant la guerre de 14-18.
So France, the country that we helped to defend in World War I, at huge cost in lives, the country we helped to liberate in World War II, has now recalled its ambassador in protest and is now calling on other members of the European Union to freeze out Australia from a new free trade agreement.
France's response to the scrap diesel submarine deal has been, well, it's one of the most over-the-top acts of whinging I think we've ever seen. Paris has done nothing but throw their toys out of the cot.
Alors on fait des caprices enfantins.
Voilà, et on pleurniche
un peu, c'est ce que dit Fox News Australia. En tout cas, les relations entre la France et l'Australie sont tombées au plus bas depuis 1995. À cette époque, Canberra avait dénoncé la reprise des essais nucléaires français dans le Pacifique. Potentielle bonne nouvelle pour la France, l'Inde regarde désormais avec intérêt les sous-marins invendus.
Éric Heyer, qu'est-ce que ça représente dans notre économie, cette absence, en tout cas ce contrat du siècle qui est passé sous le nez des Français, 56 milliards.
Non, c'est 8.
58.
Non, c'est 8. 8 seulement, c'est la part française. Oui, parce que tout le reste, c'était américain et australien.
Tout le reste, c'est américain et australien voilà. Qui sont montés là-bas.
C'est... Ah oui, oui voilà. Donc c'est... on pleurniche alors.
Non, mais ce n'est pas le contrat du siècle, effectivement. Et on va réussir à vendre d'autres sous-marins. Moi, je pense que ce que ça change, c'est un peu cette... Vous voyez, la guerre commerciale avait commencé sous Trump. Et Trump nous avait annoncé que la guerre commerciale serait beaucoup plus dure dans son deuxième mandat. Et on était très contents de dire, bon, voilà.
Bon
Trump n'est pas là, Biden... Biden arrive et donc la guerre commerciale, non, en fait la guerre commerciale va être différente, ça ne sera pas à coup de tweet, ça ne sera pas en bilatéral, mais il va tout de même faire en sorte que ben, l'excédent européen ben, s'affaiblisse un peu et que le déficit américain revienne à l'équilibre. Et donc il va falloir s'attendre à ces guerres commerciales de plus en plus.
Ce qui est intéressant par rapport à ce que vous avez montré Mohamed, c'est qu'il y a un gros clivage politique. En Australie, et l'ancien Premier ministre australien, celui qui avait signé le contrat avec la France, Kevin Rudd, a pris la plume cet après-midi dans une tribune dans Le Monde pour dire que c'était très inhabituel, il ne critiquait jamais ses successeurs, mais là, cette décision-là lui semblait profondément discutable, c'est les termes de la tribune qu'on peut trouver dans Le Monde.
Merci Mohamed Bouafsi, à tout à l'heure pour la story média. Émilie, c'est la dernière fake news qui secoue le milieu médical.
Oui, panique à Lille, une mystérieuse maladie se répandrait spécifiquement dans cette ville du Nord. On l'appelle d'ailleurs la maladie de Lille.
Je vous jure, c'est vrai, je crois qu'il y a une maladie en ce moment à Lille. Genre, j'ai trop mal à la gorge, j'ai mal au crâne, je comprends rien.
Ah, regarde, j'essaie de crier. Ah ah. Ah
ah. Voilà quelques exemples de ce qu'on peut trouver sur le réseau social TikTok. Et il y a aussi des milliers de messages sur Twitter. Exemple, qui a la maladie de Lille ici? Et en croire le réseau social, il y a beaucoup de monde qui détaille leurs symptômes. Ok, ça fait 2 jours que j'avais mal à la gorge. Là, ma voix part. J'ai la maladie de Lille. Et puis, il y a plein de gens qui toussent dans mon amphi. Ou un autre, j'ai approximativement toussé 36 000 fois depuis 2 semaines. Ou encore, mon nez est plus rempli que mon compte en banque. Même symptôme. Quand on interroge les Lillois dans la rue.
Mal à la gorge, un nez qui coule, éternuement et tout. On en parlait un peu partout, dans les bars, dans les boîtes et tout. Il y avait toujours, toi aussi, tu l'as eu, toi aussi, ça, mais on ne sait pas d'où ça vient.
Perte de voix, mal à la gorge, on toussait, on se mouchait. Rhinopharyngite un peu.
Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Une angine qui est apparue comme ça sur l'île. Alors c'est inquiétant parce qu'il y en a pas mal, je pense, sur l'île. Maintenant, c'est pas rassurant du tout.
Et oui, la peur, c'est contagieux. Et face à l'inquiétude, chacun y va de sa petite enquête. Cette Lilloise, par exemple, toujours sur Twitter, qui a l'air d'être sur une bonne piste sérieuse. Masséna, vendredi, lundi, enrhumé. Alors, tout part selon elle de Masséna, qui est le nom d'une rue à Lille, rue où on attraperait cette fameuse maladie. Il y a aussi d'ailleurs la rue Solferino, deux rues qui se croisent et où se concentrent les bars et les discothèques. On parle d'ailleurs de variant Masséna, mais aussi de Solferino-pharyngite. La rumeur est telle que l'ARS des Hauts-de-France a réagi. Nous avons reçu le signalement d'un médecin qui s'est étonné d'avoir énormément de consultations d'étudiants avec des symptômes pseudo-grippaux. Après investigation, il s'avère que la suspicion de Covid a pu être écartée. Les tests PCR étaient tous négatifs. Le diagnostic des médecins est en fait assez simple. Après avoir passé 2 ans à étudier chez eux, les jeunes sont de retour en cours, se retrouvent ensuite dans les bars, font la fête avec peut-être un peu moins de gestes barrières, à en croire ces images assez récentes. Or, vous l'avez peut-être remarqué, plus on se rapproche de l'automne, le soir, les températures chutent. Bref, c'est le retour des virus saisonniers habituels.
Pour parler de l'infodémie, des fake news, mais aussi de la santé au travail et de la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, Michel Simès est ce soir notre invité. Bonsoir,
c'est
Michel.
Par là. Bonsoir.
Ça va?
Ouais.
Bonsoir,
Michel. Bonsoir.
Bonsoir. Animateur et désormais médecin à la retraite. Pas complètement.
Je vais m'en aller si vous commencez comme ça.
Et pas à la retraite?
Si,
depuis cet été. Devancer la retraite. Normalement, j'étais à la retraite dans un an.
On y revient. On parle de votre santé. Non, mais votre santé au travail, on s'en parle. Ce soir aussi, un documentaire Voyage au centre de la mémoire à 21h05 sur France 2, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Vous avez eu votre petite maladie de Lille, là, ou pas, vous?
Non, mais j'ai bien aimé le solférino-pharyngite, là. C'était assez drôle. C'est fou, hein.
Ça dit quoi, exactement, de... du rapport des Français avec la maladie, de ce que le Covid a changé.
Mais il y a un traumatisme Covid.
Oui, il y a un traumatisme Covid, mais ça dit surtout que les gens oubliaient qu'il y avait des rhumes qui se baladaient. Et que il y avait... C'est-à-dire pendant un an et demi, on a eu que le Covid, on a l'impression qu'il n'y avait plus rien d'autre. Ben, il y a des rhumes, et des rhumes qui peuvent être liées au coronavirus, mais pas à celui-là, à d'autres coronavirus. Et donc les gens oubliaient qu'on pouvait aussi avoir un rhume quand les températures baissaient, comme vous l'avez dit, puis quand on se mettait tous à s'éternuer les uns sur les autres.
Et puis la crise du Covid a eu un effet de loupe sur toutes ces intox médicales, et les médecins étaient en première ligne pour les contrer. C'est le rôle que vous continuez à endosser. Hein.
Que je continue à endosser pour essayer de contrer
avec vaillance,
certains de mes... Alors, je prends un peu de recul par rapport à tout ça, on en avait déjà parlé chez vous, mais effectivement, je vois ici et là des médecins qui... Leur chance aujourd'hui à ces médecins qui sont anti-vax ou qui font circuler de fausses informations, c'est que je ne sois pas président du Conseil de l'Ordre.
Ils seraient tous radiés.
Ah, je peux vous dire qu'ils seraient en commission de discipline immédiatement. C'est non seulement scandaleux, inadmissible, irresponsable. Alors, qu'un médecin ne se fasse pas vacciner, bon, mais qu'il fasse du prosélytisme en expliquant qu'il ne faut pas, que c'est dangereux, il y a des tas, ce sont des tarés, quoi. Franchement,
hein, ça veut dire
des
que confrères. Le Conseil de l'Ordre est trop...
Non, ça veut dire que le Conseil de l'Ordre fait son travail, en général, il fait son travail, normalement, mais j'essaye d'avoir des infos de ce côté-là pour demander, est-ce que, parce que si moi je fais une connerie demain, je suis convoqué très très vite au Conseil de l'Ordre.
Est-ce que c'est le cas de ces médecins ?
Eh bien, je pense que oui, mais ça se fait pour l'instant discrètement. Et à mon avis, en fonction de la notoriété du médecin, vous savez, c'est compliqué le Conseil de l'Ordre. Il y a les départementaux, il y a les régionaux, il y a quand même un petit corporatisme.
Ce sont des notables aussi,
voilà,
locaux.
Je me demande si dans le sud-est de la France, ça va aussi vite qu'ailleurs.
Ah oui ?
Je me demande, je me pose une question. Je n'ai pas la réponse.
Non, la réponse, il ne s'est rien passé.
Normalement, un médecin n'est convoqué que sur plainte d'autres médecins. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de plaintes de médecins, notamment dans le Sud-Est, dans certains coins. Si, si, je pense que il faut inviter le président du Conseil de l'Ordre et poser-lui la question. Mais je pense que ça bouge et que ça bougera, mais que là, ils n'ont pas voulu en faire des martyrs. Quoi.
Un dernier mot sur le Covid, après on oublie. Le QR code d'Emmanuel Macron circule depuis plusieurs heures sur les réseaux sociaux. Son nom, son prénom, sa date de naissance, le vaccin inoculé, la date de vaccination, tout correspond. L'Élysée a confirmé. Avance l'hypothèse d'une faille déontologique de la part d'un ou plusieurs professionnels. Quelqu'un qui a fait une impression du QR code et qui l'a fait circuler volontairement ou par négligence. Ça pose quand même un certain nombre de questions.
Mais même il y a 15 jours, je crois, il y a des...
d'Emmanuel Macron.
Le dossier vaccination d'Emmanuel Macron. Mais ces gens qui font courir ça, on les chope tout de suite. On leur interdit de bosser, on leur enlève, on les radie, que ce soit des infirmières, des médecins et tout. Mais il faut arrêter d'être gentil avec tous ces gens. C'est un scandale. Il y a le secret médical, le dossier médical de Macron ne regarde que Macron et son médecin.
Et ça nous concerne tous, en l'occurrence.
On avait trouvé, en l'occurrence, les personnels de santé. C'était assez facile, qui s'étaient introduits dans le système et qui avaient consulté ce dossier-là. Je crois que c'était une dizaine de soignants en tout et qui ont été convoqués et sanctionnés.
Ben, j'espère qu'ils ont été très sévèrement sanctionnés. La violation du secret médical, même vis-à-vis d'un président de la République, est inadmissible. Ça ne correspond pas au code de déontologie des médeins.
Vous n'êtes plus médecin, en tout cas.
Si, je suis médecin encore.
Médecin, vous n'exercez toute ma vie. Plus.
Voilà. Ah ben oui, non, mais attendez.
Je me fais engueuler.
J'ai fait 12 ans, d'études.
Moi, je me fais radier aussi de l'ordre des journalistes par Michel Simès.
Je suis docteur, j'ai encore le titre de médecin.
Vous n'êtes plus médecin en exercice à l'hôpital.
Ben, vu le nombre d'ordonnances que je fais à mes copains toute la journée, je peux vous dire que j'exerce encore.
Et ce ne sont pas des ordonnances de complaisance.
Jamais.
Jamais. Vous avez arrêté d'exercer. Pourquoi ? Parce que vous avez frôlé de près le burn-out. Vous aviez des spasmes, vous vous réveillez la nuit. Et vous ne vous êtes rendu compte de rien, Michel.
Ah oui, c'était pas là, mais c'était effectivement il y a quelques années. Et j'en parle effectivement dans l'introduction de ce livre.
Sur la santé au travail.
Parce que le burn-out, c'est quelque chose... Il y a à peu près 3 millions de Français qui sont susceptibles de faire un burn-out aujourd'hui. Autrement dit, des gens qui sont très très limites, parce que stress, parce que pression, parce que le Covid n'a rien aidé, etc. Et qu'on est très très mauvais pour se dépister soi-même un burn-out. On ne s'en rend compte que quand on bascule. Et notamment dans ce livre, on ne parle pas que de ça, mais je donne aussi les indices qui peuvent laisser penser que quelqu'un avec qui vous travaillez peut être en train de basculer pour être vigilant pour les autres. Parce que le burn-out, c'est une véritable catastrophe, c'est une dépression, ça vous coupe de tout. Et puis, du jour au lendemain, vous ne trouvez plus aucun sens à votre travail.
Vous rappelez d'ailleurs qu'à l'origine, le mot travail vient du latin tripaliare. Qui veut dire torturé.
Torture, ouais, qui ça veut dire envie, torture. Hein. Non, ça donne pas envie, mais bon, on parle d'autre chose que de ça dans ce livre. Mais effectivement, on est dans une période où voilà, on passe beaucoup de temps au travail. La lutte contre le stress devient quelque chose d'essentiel. Mmh. Tous ici, on a été stressés dans notre boulot. Tous ici, on est arrivé un jour, vous ou Patrick, dans des rédactions avec la boule au ventre parce que ça n'allait pas avec nos collègues. Et puis, on s'en est sorti. Mais le stress vécu par des gens pendant des années parce que ça ne se passe pas bien a des répercussions sur leur santé qui fait que quand on travaille, on prépare aussi l'après-travail. On prépare cette fameuse retraite dans laquelle je ne suis pas encore. Mais on prépare cette retraite. Et si vous altérez votre santé, votre cœur, parce que vous arrivez stressé au boulot et que vous repartez stressé au boulot, puis avec le télétravail aujourd'hui, c'est compliqué de s'organiser, et ben vous allez le payer pendant votre retraite.
Vous parlez de passer beaucoup de temps au travail, mais on y a passé beaucoup moins de temps avec le Covid. Il y a eu le télétravail qui s'est généralisé. C'était au début un peu un fantasme d'être plus heureux justement avec son travail. Et en fait, il y a eu une désillusion. C'était une fausse bonne idée.
Il n'y a pas une désillusion. Il faut être très vigilant avec ça. Parce que c'est vrai que sur le papier, c'est génial d'être chez soi. On est plus tranquille. Sauf qu'il y a une expression en anglais que je ne vais pas vous dire en anglais pour ne pas vous faire marrer. Mais en français, ça veut dire que c'était le travail à la maison au départ. Il ne faut pas que ça devienne la vie au travail.
Mmh. Autrement dit, il ne faut pas
transporter votre bureau chez vous. Parce que sinon, si vous n'avez pas d'horaire précis, que vous ne dites pas, bon, bah voilà, là, j'arrête de travailler. Normalement, vous savez, il y a un droit à la déconnexion au train. Mmh. Si vous oubliez les horaires ou que vous décalez dans la journée en disant, bon, ça, je ferai ça ce soir, etc., vous n'avez plus de vie familiale, plus de vie sociale. Et donc, c'est très dangereux. Donc, il faut s'organiser à la maison, quand on peut, parce qu'il faut aussi un espace dédié, comme on le fait au travail. Et surtout, il ne faut pas faire que ça. Il faut retourner au bureau.
Autre question sur le travail et les conséquences. Il y a une étude très sérieuse qui a été menée dans 3 pays, Royaume-Uni, Allemagne, France, qui révèle que le télétravail fait qu'on se relâcherait un peu plus au niveau de l'hygiène. Plus d'un télétravailleur sur 2, 57% exactement, se dit moins préoccupé par son apparence physique quand il travaille à la maison. Alors, c'est vrai qu'on l'a un peu vu à plusieurs reprises, au Parlement européen même, quand un député européen irlandais participait au débat depuis son lit.
En pyjama.
En chemise. Non. Et en caleçon, ma belle.
Ah oui, en caleçon.
Et puis il y a eu aussi.
Et il est rasé d'habitude, vous pensez ?
Je sais pas.
Heureusement qu'il se grattait avec la cuisse.
Ce ministre de la Jeunesse et des Sports en Roumanie qui a été trahi par sa webcam au moment, là aussi encore chemise, caleçon, donc visiblement. Mais ça peut aller encore plus loin. 50% des télétravailleurs reconnaissent qu'ils utilisent moins de déodorant. 39% des télétravailleurs se lavent moins souvent. 34% se brossent moins les dents. Vous confirmez, travailler en pyjama, ça n'a aucune incidence d'ailleurs sur la productivité.
Non.
Enfin, en revanche, ça peut rendre malheureux.
Oui et non. C'est-à-dire que, bon, ça c'est quand même... mais c'est assez on pouvait s'y attendre à ces chiffres. C'est vrai que vous faites moins d'efforts quand vous n'allez pas au bureau rencontrer, rencontrer d'autres gens. Après, je pense que c'est surtout un problème psychologique parce que quand on travaille, on veut trouver du sens à son travail et le sens, c'est aussi la reconnaissance. Et la reconnaissance, on l'a plus facilement en ayant des gens en face de vous plutôt qu'en ayant des ordinateurs. Ah oui. Et donc, c'est un peu le danger. En même temps, si on arrive à faire un petit peu de télétravail et puis du présentiel qui est essentiel, et puis ne serait-ce que pour les relations, et puis quand vous travaillez chez vous, enfin, moi, je deviens dingue, moi, si je passe toutes mes journées à travailler chez moi.
Pour favoriser le bien-être au travail, vous préconisez l'altruisme entre collègues. Apporter des croissants au bureau, relire le dossier de son voisin.
C'est normalement des bisounours.
Ouais. Non mais c'est une BA qui booste réellement le système immunitaire de celui qui fait la BA, pas de celui qui en profite.
Aussi. Ah bon. Mais lui, il va prendre du poids, lui. Mais
oui, à cause des croissants. Non mais vraiment, ça booste.
Oui, parce que...
Avant l'hiver, il faut se précipiter.
Non, mais parce que quand vous faites des choses, mais ça, c'est valable même sans le faire au boulot, quand vous faites des cadeaux, quand vous faites du bien aux autres, vous ressentez vous-même le bonheur de l'autre. C'est parce qu'on a des neurones miroirs dans le cerveau qui nous font vivre ce que l'autre ressent. Et la bienveillance au boulot, la fameuse QVT, là, c'est le grand mot à la mode, un acronyme qui veut dire qualité de vie au travail. C'est pas cochon,
c'est QVT. Moche, quoi,
bah oui, mais il y a des QVT dans toutes les entreprises. Vous parlez de QVT aujourd'hui. Et on a même des gens qui sont employés pour apporter du bonheur dans les entreprises. Aujourd'hui, c'est ce que vous disiez sur la bienveillance vis-à-vis de ses collègues, sur le fait que les entreprises ont compris aussi une chose, parce qu'elles sont très pragmatiques, ce qu'on appelle un autre acronyme, le ROI, c'est-à-dire le retour sur investissement. Quand vous mettez 1 euro pour le bien-être de vos salariés, il y a un retour sur 2, 3 ou 10 euros. Donc, ils ne sont pas idiots et ils ont créé des postes aussi pour apporter le bonheur.
Eric Ayer acquiesce. un conseil.
Merci d'acquiescer.
Évitez les collègues toxiques. Ok, mais comment on les repère, les collègues toxiques? Vous proposez un petit test. Si un collègue est constamment négatif, se plaint tout le temps, qu'il retourne régulièrement sa chemise, qu'il ne se remet jamais en question, c'est toujours la faute des autres. S'il divise pour mieux régner et qu'on n'ose jamais le contredire, comment je fais si je dois m'éviter moi-même? Si je coche moi toutes ces cases-là?
Alors, si vous devez vous éviter vous-même, il faut aller voir un psy. Parce que là, c'est que vous prenez conscience brutalement de votre toxicité.
Non mais sérieux, si c'est le chef qui est toxique, on peut difficilement l'éviter.
Non mais ce qui n'est pas le cas, je tiens à le préciser.
Mais il y a des DRH pour dit. Ça.
Il y a des DRH.
Aujourd'hui, tous les responsables des ressources humaines dans des entreprises sont formés à la qualité de vie au travail, sont formés aux relations.
Tous.
Bon, dans les grandes entreprises.
Ah, Eric Heyer n'est pas sûr. Non,
mais surtout, il y a toutes les PME. Donc, effectivement, dans les grands groupes,
ça fonctionne.
Tout ce qui est, mais après, le gros tissu de PME, et ben, malheureusement, les tensions au travail sont réelles.
Et donc, si vous avez quelqu'un de toxique à côté de vous, ben, ce que je disais tout à l'heure, ça répercute sur votre organisme. C'est du stress permanent et après, c'est à vous de choisir. Ou vous restez là. Alors, si vous avez un interlocuteur, le DRH qui est là, bah, vous allez lui en parler ou un manager au-dessus. Et sinon, il faut se poser la question de la toxicité du voisin. Si vous ne pouvez pas le faire changer, il faut peut-être changer vous de poste. Parce que sinon, le stress, c'est vous qui l'avez. C'est vous qui allez être malade.
J'espère que Faustine Bollaert ne coche aucune de ces cases.
C'est limite.
Ce soir, vous présenterez avec elle Voyage au centre de la mémoire sur France 2 en cette journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Et il y a un des documents qu'on va découvrir, on va en voir un extrait là, qui est absolument bouleversant. C'est le témoignage de la comédienne Agathe Natanson qui raconte comment elle a aidé son mari, Jean-Pierre Marielle, parti en 2019. Elle l'a aidé à cacher pendant des années qu'il était atteint d'Alzheimer.
Il n'y aura pas d'Eucharistie aujourd'hui. Vous êtes tous bénis, allez où ? Du balai ! Dieu reconnaîtra Lucien.
C'est un très joli film.
Là, on était dans Pièce Montée, c'était en 2010.
Oui.
Vous étiez là, dans les coulisses ?
Oui. Là, il avait l'oreillette.
Moi, je lui soufflais le texte.
Tout le texte.
Tout le texte. Donc, il répétait.
Il jouait le texte.
Il
répétait pas le texte.
Il jouait le texte. Vous avez raison. Il l'interprétait.
Voilà.
Votre texte.
Voilà.
Mais comment vous l'expliquiez à l'équipe autour?
Alors,
comment vous disiez?
Ça a été très difficile. Au départ, j'avais honte. Parce que cette maladie fait honte. On a honte pour le malade.
La maladie d'Alzheimer, Michel, on ne la guérit pas, mais on peut la faire stagner.
Et on peut même la repousser. En fait, pour simplifier, on en parle ce soir et dans le documentaire et sur le plateau après avec Faustine, la maladie d'Alzheimer, elle est due à deux choses, à la formation de ce qu'on appelle les plaques amyloïdes, ce sont des sortes de pelotes de laine qui se mettent entre les neurones et qui empêchent les connexions entre eux, et puis une protéine, la protéine tau, qui s'accumule dans le neurone et qui entraîne sa mort. Aujourd'hui, on sait... Il y a un médicament qui est aux États-Unis, qui a eu l'autorisation de mise sur le marché temporaire pour l'instant et qui semble pouvoir dégrader un peu ces plaques amyloïdes, ces pelotes de laine. Et donc, on attend de voir si ça a des répercussions sur les symptômes. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'un changement de vie avec une hygiène de vie plus saine, d'activité physique, une bonne alimentation, une activité intellectuelle. Intellectuelle, ça ne veut pas dire qu'il faut aller lire Nietzsche tous les soirs. Ça veut dire qu'il faut lire, s'intéresser à la culture, avoir des relations sociales. Tout ça permet aujourd'hui de reculer l'apparition de la maladie, parfois de 5-6 ans. Ouais. Alors, on ne dit pas qu'on l'empêche d'arriver, mais si vous arrivez à la reculer de 5-6 ans et à faire en sorte que tout ce que je viens de vous dire permet d'avoir des formes moins graves de la maladie, c'est déjà quelque chose d'important. Et on attend, bien sûr, des médicaments. Et puis surtout, l'avenir, c'est de pouvoir diagnostiquer cette maladie 10 ou 15 ans avant l'apparition des premiers symptômes par des marqueurs qu'on va aller chercher.
21h05 ce soir sur France 2 avec Faustine Bollaert. Vous restez avec nous, c'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Babette, bonsoir à toutes et à tous.
Au sommaire ce soir.
Des gardes frontières qui chassent des réfugiés à cheval et en faisant claquer leur fouet des images choquantes à la frontière entre États-Unis et Mexique. Un géant de l'immobilier chinois surendetté, un géant assez gros pour inquiéter les bourses mondiales. Et puis même sur un pédalo, un taliban reste un taliban. C'est à la fin du 5 sur 5.
On commence avec ces images qui émeuvent aux États-Unis, mais pas seulement.
Des gardes-frontières à cheval qui repoussent des réfugiés façon cow-boy armés de fouets. On est au Texas. On chasse donc des hommes, comme au zoo, comme au cirque, au fouet, pour les empêcher de pénétrer le sol américain. Écoutez la réaction de ce journaliste Chris Cuomo de CNN. Tout est dans le ton.
We really are in the throes in this country of figuring out who we are and what we're about. And I was taken aback by a single image that should make you pay attention to a problem. This one. There's a lot here. Yeah, as an image, to me it does smack of a bygone era of slavery.
Ces patrouilles équestres ont été mises en place le week-end dernier alors que des milliers de migrants campent entre le Texas et le Mexique. Ces derniers jours, Joe Biden veut montrer que son administration peut maîtriser la frontière, mais on sent l'embarras de la Maison-Blanche.
The situation on the ground in Del Rio, one, it's a challenging situation. It's devastating to watch this footage. I think it's important, though, for people to also know that what we're trying to do is also protect people. One, we've been conveying that this is not the time to come.
Il faut préciser toutefois que la décision de ces patrouilles est une décision locale. À Washington, on promet une enquête, des sanctions s'il le faut.
Ce ne sont pas des fédéraux, ce n'est pas la police. C'est la police d'État.
C'est de l'État, c'est exactement ça. Et puis de la commune de Del Rio, dont on va parler dans un instant, qui est la commune voisine. Je reviens aux images qui ont rapidement fait le tour du monde et qui heurtent, bien sûr. On est sur les rives du Rio Grande. Dans cette zone, le fleuve, c'est la frontière USA-Mexique. Alors certains de ces réfugiés s'y lavent, d'autres traversent pour aller chercher de la nourriture au Mexique. Celui-ci, celui que vous voyez, cette image est extrêmement forte, tente sa chance côté américain, seul sur une des digues du Rio Grande. Et selon le photographe qui a pris ces clichés, ces scènes de fouet, 5 ou 6 cavaliers sont arrivés subitement, intimant l'ordre aux réfugiés de faire demi-tour. Ils sont près de 15 000 sur place, principalement des Haïtiens.
What kills me about that is that everyone knows what we Haitians are going through. There's no president. Crime is high. Students can't go to school. There's no work. The economy is down. People can't put up with that. Deportation is not good for us. Sanitary products? There aren't any. Food? There isn't any either. They don't give you anything.
It was really difficult. I saw a lot of us who died.
Ces réfugiés sont donc bloqués à la frontière sous ce pont qui mène à la ville de Del Rio. Nous en parlions, Del Rio, c'est au Texas, entre les États-Unis et le Mexique. Donc les deux frontières, désormais, leur sont fermées.
Une entreprise chinoise qui fait peur à la finance mondiale.
Cette question qui préoccupe aujourd'hui, est-ce qu'on va connaître un Lehman Brothers chinois ? Evergrande, géant de l'immobilier, géant par sa dette aussi, 260 milliards d'euros et des échéances, des remboursements à venir cette semaine. On va parler dans un instant de l'inquiétude sur les marchés hier, c'est ce qui a propulsé le sujet à la une, mais pour bien comprendre, c'est la stabilité économique et sociale de la Chine qui est en jeu. Ce sont, écoutez bien, près de 4 millions d'emplois directs ou indirects concernés. Evergrande fait travailler 8000 entreprises sous-traitantes. Les chiffres sont impressionnants, les proportions évidemment à l'échelle de la Chine. Le promoteur immobilier a vendu 1 400 000 appartements qu'il n'a pas terminés, qu'il n'a pas livrés. Et forcément, les clients, les investisseurs protestent. La semaine dernière, des manifestations se tenaient à Shenzhen. Alors Shenzhen, c'est au sud de la Chine, où se trouve le siège de l'entreprise. Et nous avons retrouvé cet homme, un homme qui avait alerté sur la fragilité d'Evergrande. Il s'appelle Andrew Left, il est américain, analyste. Il avait même été accusé à l'époque de manipuler l'information boursière. Écoutez-le en 2016.
I don't think I was reckless in my conduct at all. Scott, if you look at that report, it's extremely well-sourced, it's well-documented, everything is right there. Their accounting, in my opinion, was Ponzi-like accounting, taking from one person to pay back the person beforehand. And right now, looking backwards, it probably wasn't the best idea to write an article on, I think it's the largest property developer in China. That being said, you can't take away the truth. Hong Kong has made conscious efforts right now to curb short selling, to also curb any kind of criticism within the market that I was giving.
Andrew Left, c'est son nom. Forcément, aujourd'hui, il est sur la ligne. Je vous avais prévenu.
Who knows Evergrande knew this was a long time coming. Tried everywhere we could just to get the truth out. Great counsel in Hong Kong to show that the company was masquerading its balance sheet and its off-balance sheet projects were going to cause insolvency in the near term.
Alors hier, la bourse de Hong Kong a dévissé, entraînant les places mondiales dans son sillage, le Dow Jones, le CAC 40 chez nous, et encore c'était férié hein, ce début de semaine en Chine. Aujourd'hui, le calme est revenu chez nous, mais Eric Heyer, de notre point de vue, est-ce qu'on a raison de craindre ou de parler d'un Lehman Brothers chinois ?
Non, parce que ça reste la Chine. Lehman Brothers, c'était aux États-Unis et donc les marchés financiers sont ouverts. Là, ça reste quand même en Chine. Donc, ça va être un énorme problème chinois et ça va être aux autorités chinoises à le régler et ils ont les moyens de le régler. Et donc, du coup, il est quand même, l'onde de choc sera quand même moindre que Lehman Brothers. Et même, il est possible que les bourses, finalement, il y ait eu un petit juste soubresaut et ça reste. Donc, ça va dépendre des autorités chinoises, mais ils ont les moyens de le faire. Et encore une fois, ce n'est pas une économie ouverte comme pouvaient l'être les États-Unis.
On part au cinéma après. Présent les blockbusters américains, sauce Moyen-Orient.
Alors ne cherchez plus, hein, Pierre, j'ai trouvé hein, pour le prochain festival de Cannes, on va s'intéresser au cinéma koweïtien. Au Koweït, on ne se laisse pas envahir par la pop culture américaine, on l'adapte, non sans humour, vous allez le voir, après Batman, Superman, Spider-Man, Ashman, le premier super-héros koweïtien, mi Koweït, mi Hollywood en réalité.
عطوني اشرار يا شباب ما تقلل الموضوع في صواريخ
Ashman. Alors bon, le film vient de sortir là-bas, une comédie, vous l'aurez compris.
Grands enfants.
Ce super-héros bedonnant qui remplit bien.
Oui,
comme
il est.
Ça, maison, bah, on va le mettre au régime, non ?
Bah, c'est pas. Enfin, je sais pas. On peut pas mettre que des canons de beauté dans les films, mais quand même.
Mais là-bas, ça freine son aérodynamisme.
Ouais, c'est probable. Quoi qu'il en soit, c'est pas la première fois qu'on retrouve des codes occidentaux dans la pop culture de pays musulmans. J'insiste. À l'image, vous allez voir des extraits du dessin animé Burqa Avenger. Si, si, ça existe. Il y a quelques années, dessin animé pakistanais, l'histoire en fait d'une maîtresse d'école qui se transforme en super-héroïne masquée, enfin voilée. La réalité du dessin animé, en fait, il faut le souligner quand même, c'est qu'elle défend l'école contre l'extrémisme religieux et la corruption. Suivez mon regard. Alors pour vous montrer à quel point il s'agit d'influence, qu'on n'est pas juste en train de zapper entre des programmes du Moyen-Orient, écoutez, découvrez Dirilis Ertegrul. J'ai pris un peu d'élan, c'est une série turque. Regardez et dites-moi si ça vous rappelle quelque chose. Vous l'avez, Babette, j'en suis sûr. Le Game
Moi, je
of
pensais
Thrones
à Kaamelott.
Oui. Turc.
Kaamelott en moins drôle, alors.
Alors, en réalité, dans Dirilis Ertegrul, on est au XIIIe siècle. Les origines, les fondations de l'Empire ottoman contre les Templiers, puis contre l'Empire byzantin, soft power turc, qui colle à merveille avec le récit nationaliste du président Erdogan.
13 yaşında torunum sadece yayınladığı akşamı izlemiyor. Bir de tekrarını izliyor. Şimdi bununla biz onlara özgüven kazandırıyoruz.
5 saisons, série traduite dans 25 langues et exportée dans 71 pays.
Quelques images du monde, Mathieu, et on commence à l'Assemblée générale des Nations Unies.
Oui, à New York, avec une figure anti-vax, docteur, le président Jair Bolsonaro, que l'on retrouve sur Twitter. Dîner de luxe à New York. Il mange une pizza dans la rue avec son équipe. Alors, il essaie peut-être de passer pour un président sympa. La réalité, c'est qu'il est interdit d'accès au restaurant new-yorkais parce qu'il n'est pas vacciné.
Il n'a pas ce passe sanitaire. Ouais.
Voilà, lui qui a affirmé à maintes reprises qu'il serait le dernier Brésilien à se faire administrer un vaccin. Autre image, beaucoup plus sympathique. Une drôle de gondole à Venise, un violon géant flottant et transportant un quatuor à cordes, le violon de Noé. C'est le nom de cet objet, de cette œuvre de 12 mètres sur 4, construite avec le même bois, hein, les mêmes essences qui servent aux gondoles. L'idée de ces artistes, c'est de rendre hommage au grand nom de la musique classique. Et puis une autre embarcation qu'on a un peu de mal à qualifier, deux salles, deux ambiances, des images de talibans qui font du pédalo. Si, si, ces photos sont sans trucage, des hommes en armes, Kalachnikov, lance-roquettes, entre autres, sur des pédalos, en forme de canard, de cygne. Vous ne rêvez pas, ils sont dans la province de Bamiyan, qui est un des plus beaux endroits au monde, un parc national afghan, lieu touristique, avant la prise de pouvoir des talibans, bien sûr.
On termine avec une petite douceur.
Oui, parce qu'il y a du rab, Babette. Si vous voulez des bonbons, des chewing-gums, des sucettes, des dragées, même, il va rester du stock cette année. Le syndicat des confiseurs de France accuse une baisse de 8,5% en 2020, moins 5% sur les trois premiers mois de cette année. Les Français boudent les sucreries. Ah oui. Fraise Tagada, Dragibus, Crocodile, vous avez une préférence?
Ah, et Tagada.
Ouais, moi aussi. Dragibus, pas mal.
On a été posé la question à quelques paris cet après-midi.
Les nounours.
Les dragibus, mais les gros.
Fraise Tagada, les chamallows. Et puis, ben voilà, genre de bonbons. Qui rappellent l'enfance, quoi.
Dès que je vois des bonbons, moi.
Si je tombe dedans, c'est foutu. Le paquet, il y passe. Hein.
Parfois, j'en achète pour des enfants. Et en fin de compte, ils n'arrivent pas jusque chez les enfants.
Il ne faut pas en prendre un, sinon c'est addictif. On en prend deux, trois et on ne s'arrête plus.
Non, mais je pense que là, on va quand même aller s'acheter un petit paquet de bonbons. Ouais.
On leur a donné envie. Alors plus sérieusement, il n'y a pas Caribou dans la vie. La réalité, c'est que sans les mariages, sans les baptêmes, sans les cinémas, les fêtes foraines, avec les fêtes de famille limitées à 6 personnes, ce confiseur rencontré par Camille Schmitt et Audrey Payas vient de passer quelques mois compliqués.
À la base, on fait surtout des mariages pour 150 personnes et finalement, on se retrouvait à des 30, 40 personnes. Donc au lieu de vendre 10 kilos de dragées, on en vendait 2-3. Et du coup, on a eu une baisse peut-être de 50%, mais ensuite, à côté de ça, on a notre internet, le site internet. Depuis le mois de mai, on a une belle croissance en termes de vente de dragées pour tout ce qui est cérémonie.
Donc ça repart, c'est la bonne nouvelle. Et franchement, j'y suis pas pour rien, ils peuvent dire merci. Alors pour terminer sur ce dossier brûlant, je vous propose de relancer un débat aussi important que pain au chocolat, chocolatine. Le patron de Haribo lui-même a dû répondre à la question.
Est-ce que tous les dragibus ont le même goût, peu importe leur couleur?
Moi, j'ai appris dans certaines émissions que j'avais droit à un joker. Ah. Et je crois que pour entretenir le mystère que vous évoquez, bah oui. Je crois qu'il faut que je vous laisse avec ce mystère.
Okay. Moi, je préfère les noirs.
Tous les dragibus.
Les petits dragibus noirs, ils ont un goût différent, moi, je trouve.
Bah, on aura hein, jamais la réponse.
On n'aura pas la réponse. Vous savez quoi? On va faire un grand test.
Voilà. Hein, grandeur nature.
Moi, je vous dis que tous les dragibus sont excellents.
Voilà. Oui, bien sûr. Ils sont tous très bons, de toute façon. On n'aura pas la réponse ce soir. Le mystère reste entier. Michel Simès, c'est même pas une question. Franchement, au boulot, dans une réunion, les bonbons, ça vous change un peu l'atmosphère.
C'est vrai, et ça vous change l'atmosphère, ça vous change aussi votre périmètre abdominal au bout d'un moment.
Et votre émission.
Et je ne le disais pas pour vous. Hein.
Je l'ai pris pour moi.
Mais cela dit, vous recommandez d'apporter des croissants pour améliorer notre santé au travail.
Oui, mais pas tous les jours non plus.
Ah oui, voilà, à quelle fréquence?
Vous pouvez apporter des fruits aussi. Non, mais les croissants, c'est une fois de temps en temps. Des chouquettes pour Patrick, et puis vous apportez des fruits. Le tout, c'est d'apporter quelque chose.
Bon, ben vous nous avez apporté
un livre.
Je vous remercie. Vous nous avez apporté un livre, votre santé au travail, on s'en parle. Bien dans votre job, c'est possible. Merci beaucoup, Eric Ayer, d'être venu ce soir. Merci. On vous garde, Michel Simès. On a besoin de vos lumières pour discuter notamment avec André Dussolier d'un film événement. François Ozon, tout s'est bien passé, adapté de l'histoire d'Emmanuel Bernheim, son père, André, qui a décidé de mettre fin à ses jours, un suicide assisté en Suisse, ce qui n'est pas possible aujourd'hui en France. C'est un débat qu'on ouvre dans une seconde. A tout de suite. Merci Eric Ayer.